Pendant que la France se bagarre pour accéder au pétrole sans se ruiner, Ursula von der Leyen a fait cette déclaration fracassante, je vous la lis. La réduction de la part du nucléaire était un choix et à la réflexion, l'Europe a fait une erreur stratégique en tournant le dos à une source d'énergie fiable, économique et peu émettrice. C'était le 10 mars dernier à Paris, lors du sommet européen du nucléaire civil. Ça fait évidemment l'effet d'une bombe, on en parle beaucoup. En ouverture de ce sommet, Emmanuel Macron avait déjà vanté les vertus du nucléaire civil, facteur selon lui d'une indépendance bienvenue. Alors, conversion subite, mais tardive, parce que les énergies renouvelables ont déjà fait beaucoup de dégâts. Que s'est-il passé et pourquoi ce revirement? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que Nicolas Meillant
On assiste au bal des faux culs. j'ai rarement un mot tendre pour Madame von der Leyen, mais là je vais en avoir un. Au moins elle reconnaît son erreur, ce qui n'est pas le cas de notre président de la République, qui a quand même fermé deux réacteurs qui flambent en neuf. Accessoirement qui a tué le nucléaire du futur en arrêtant le programme Astrid. Écoutez-moi bien, pour faire des économies de bout de chandelle, pour respecter les 3% de Bruxelles. Donc lui n'en a pas fait amende honorable, contrairement à elle. Donc écoutez, non, ce qu'il
faut... Faut avouer à moitié pardonner, vous dites.
Oui, alors franchement, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a écrit la phrase pour von der Leyen. Il a fait son coup, elle est venue à Paris, elle a lu la phrase qu'il lui a écrite. Bon, faut pas, ça va pas beaucoup plus loin que ça, je pense.
Elle s'est excusée pour lui. Philippe Charlez, comment est-ce que vous regardez cet épisode marquant quand même?
Je suis pas
très marquant.
D'accord, parce que malgré tout, Macron, alors certes, il a...
Après avoir vendu Alstom aux Américains, oui.
Il a fait... quand même marche arrière en 2022 lors du fameux discours de Belfort où effectivement il est quand même passé tout en disant qu'il n'avait pas changé d'avis,
grâce
ça
à
c'est
Poutine.
Tout à fait vrai, de 14 réacteurs à fermer à 14 réacteurs à ne plus fermer et à 14 réacteurs à construire. Mais il a dit qu'il n'avait pas changé d'avis, donc ça je suis tout à fait d'accord avec vous Nicolas Meillant. Par contre, il a quand même eu au moins le mérite en 2022 de relancer un peu le nucléaire au niveau européen, puisque c'est quand même suite à ce discours de Belfort qu'un noyau dur s'est créé au niveau des pays européens. Et je dois dire qu'aujourd'hui, là, on en récolte quand même un petit peu les fruits. Il faut quand même savoir...
Vous êtes bien optimiste.
Si, mais cela étant, bon, ce qui est vrai, c'est que c'est après avoir perdu 25 ans. Et donc, ces 25 ans-là, ça prendra beaucoup de temps pour là, que ce soit 22 ou que ce soit maintenant. C'est un peu pareil. Mais disons que le ver dans le fruit, il ne date même pas de Macron. Hein, il date carrément de Jospin dans les années 2002, de Schröder dans les années 2002, et puis de Merkel après Fukushima. Donc, je vais dire que la dérive européenne du nucléaire, elle est quand même... largement bien avant que Macron n'ait intervenu. Donc je dirais qu'on ne peut pas tout lui mettre quand même sur le dos.
Ouais, moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. La relance nucléaire en Europe, c'est Vladimir Poutine. Point barre. C'est qu'avec l'augmentation du prix du gaz et des prix d'électricité, si les Italiens relancent le nucléaire, c'est pas pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Hein. C'est parce qu'ils se sont fait démonter par des prix de l'électricité qui ont augmenté suite à la crise du gaz et de l'électricité. Donc,
surtout en Italie où ils ont énormément d'électricité gazière.
D'ailleurs, je les ai pas entendus remercier Vladimir Poutine. Mais, bon.
Mais ces EPR nouvelle génération, ils seront opérationnels quand? Parce qu'ils vont être fabriqués en usine pour que ce soit plus moins cher, etc.
Ah non, c'est pas en usine, EPR.
Ça c'est d'autres choses.
C'est les SMR, ça non, on ne fabrique pas un EPR en
les
usine.
Les SMR, pardon.
Non, justement, le...
Et ça sera quand, ça?
2040, ils doivent sortir en 2040, il faut... Et encore, si ça se passe bien.
S'ils arrivent à les construire, s'ils finissent le design, qui n'est pas encore terminé, beaucoup de conditions, s'ils les financent.
Et nos centrales auront combien d'années?
Nos centrales, elles vont très bien et la priorité, c'est vraiment qu'on les emmène à 80 ans, voire 100 ans, et qu'on essaye d'être
à 100 ans.
Comme les Américains.
Non, ils sont à 80, je crois.
Certains réacteurs vont les emmener à 100 ans. On a les mêmes réacteurs, on n'est pas... J'ai dit, on n'est pas plus con, mais alors là, je me dis, bon, peut-être un peu, mais pas trop. Voilà, essayons de faire comme eux et les emmener à 100 ans.
Enfin, les 80 ans, c'est pas acté aujourd'hui, mais c'est absolument nécessaire.
Et d'ici là, on peut par ailleurs imaginer que l'Union européenne décide de se réapprovisionner massivement en gaz russe, Ou en pétrole russe.
Alors, enfin, le scénario le plus probable, c'est que les États-Unis avaient envie de nous donner une bouée de sauvetage, donc ils vont racheter les pipelines Nord Stream, ils vont les réparer et ils vont nous le revendre du pétrole russe qui est transporté par des pipelines américains.
Nord Stream, ouais. C'est du gaz.
Une opération extraordinaire.
Après les avoir fait sauter, bien évidemment.
Incroyable. Ça, c'est les Ukrainiens, quoi.
Voilà. Eh bien, merci infiniment, Nicolas Meillan. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir été parmi nous. Vous nous avez éclairé sur ces enjeux complexes et techniques qui méritent une bonne connaissance du dossier avec Philippe Charlès. Là, c'était extraordinaire. J'espère que nos auditeurs auront mieux compris les enjeux de ce qui se passe. Et ça n'est pas fini.
Merci
très
beaucoup.
Compliqué. Merci Nicolas Meillan. Voilà, et vous reviendrez quand vous voudrez, vous aussi. Nous allons parler de Quentin, qui est au cœur d'une bataille médiatique.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
On a beaucoup parlé, vous le savez, ici aussi d'ailleurs, du drame du jeune Quentin à Lyon, et c'est bien normal parce qu'on n'a pas vu beaucoup de lynchage en France depuis la dernière guerre, mais ce n'est pas fini, il y a une bataille terrible sur la personnalité de ce garçon, sur son parcours, sur son profil. Mediapart vient de publier un long article dans lequel il accuse ce jeune homme d'avoir publié sur X des messages très durs et même tout à fait indéfendables pour certains, il faut le dire. Ils n'ont pas été publiés sous son nom, mais Mediapart a que c'est bien lui qui les a publiés. Bonjour Jean Bexon.
Bonjour Marc.
Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire, vous êtes déjà venu d'ailleurs, je crois, une fois au moins, non ?
À Radio Courtoisie ?
Oui.
Alors oui, mais avant qu'il y ait les nouveaux locaux.
Ah, bah donc, oui, mais forcément, ils sont tout neufs.
Oui.
Donc voilà, vous les inaugurez presque. Vous avez enquêté sur la mort de Quentin et vous avez bien perçu cette bataille du récit médiatique que vous avez raconté dans plusieurs articles de Boulevard Voltaire. Alors il y a les publications de Quentin Deranque et puis il y a les faits qu'on va reprendre et la personnalité de la victime n'a rien à voir en réalité avec la gravité d'un meurtre. Hein. Alors je voulais qu'on revienne rapidement sur cet épisode avec vous. Et d'abord en vous posant cette question, est-ce qu'il y a eu préméditation de la part des assaillants et des assaillis d'ailleurs ?
Alors selon les témoins, selon les victimes, oui, il y a eu préméditation.
De la part des assaillants.
De la part des assaillants. Mmh. Et qui sont le groupe
antifasciste,
composé de 20 à 30 antifascistes, notamment affiliés à la Jeune Garde. Et donc oui, il y a eu préméditation. Des militants proches, enfin les militants pro-Némésis, qui étaient présents sur place, m'ont vu que d'abord ils ont vu ce qui s'apparentait à un couple, donc, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme avec un chignon, une femme avec une veste marron. Et ils ont vu ce couple passer sur le carrefour sur lequel ils étaient dispersés, faire le tour du carrefour, repartir par le tunnel vers l'établissement, l'Institut d'études politiques.
En scooter,
de Lyon.
Hein, c'est ça ?
Alors là, c'était à pied, et puis après, ils ont vu un scooter, et qui a aussi attiré leur attention, puisqu'il a fait à peu près le même déplacement. Et avant le lynchage, avant ce terrible événement, il y a même un militant qui a eu un doute et qui a pris en vidéo le scooter et qui a la plaque d'immatriculation qui a été déposée au dossier. Donc pour vous dire que cette préméditation, elle est fondée, puisque même avant qu'il se passe ces événements tragiques, les militants avaient remarqué, avaient notifié, avaient identifié ces personnes comme étant des personnes qui venaient faire un repérage. La jeune femme d'ailleurs qui est passée, elle comptait le service d'ordre informel, les membres du service d'ordre informel, donc qui étaient des amis des Némésis qui étaient à quelques mètres plus loin. Elle les comptait avec ses doigts et c'était visible puisqu'elle les voyait. Elle est en train de compter avec ses doigts. Et
c'est comme comptait, ça elle comptait les militants.
Elle comptait les militants, etc. Et après,
droite qui étaient venus défendre les Némésis.
Exactement. Ouais. Et en fait, c'est quelques secondes après qu'elle soit repassée dans le tunnel. Ils ont eu à peine une minute ou deux minutes pour se dire, mais attends, c'était quelqu'un en repérage. Et là, ils ont fait le lien, puisqu'ils ont entendu directement la foudre s'abattre sur eux, puisque une vingtaine ou une trentaine d'antifascistes ont foncé sur eux. Ils ont entendu des menaces de mort, ils ont vu Jacques-Élie Favreau en tête.
Nous sommes avec Damien Chalamel, Jean-François Collomb-Désart et Philippe Charlès. Donc Jacques-Élie Favreau, qui est le collaborateur de Raphaël Arnault, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault, le député France Insoumise. Il est présent ce soir-là. Quel est précisément son rôle, Jean Bexon ?
Eh ben, les témoins et victimes l'identifient, enfin les témoins oculaires l'identifient comme celui de le rôle de meneur. J'ai pu, en croisant plusieurs témoignages, le repérer sur les vidéos surveillance, sur les vidéos des témoins, l'identifier. Je le vois mettre au moins 3 coups de pied dans le haut du corps de Quentin et je suppose dans la tête de Quentin. Donc non seulement il a ce rôle de meneur décrit, mais en tout cas on le voit sur les images en train de porter des coups à Quentin. Et d'ailleurs il n'a pas nié cette commission de violence sur Quentin. Donc il est pleinement impliqué. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud de la France Insoumise est pleinement impliqué dans cette affaire.
Ouais, ouais, il avait des gestes lui-même, c'est d'ailleurs incroyable.
Oui, moi j'ai eu la chance Chalamel. De vous entendre sur Europe 1.
Merci.
Et alors, est-ce que vous pouvez brièvement quand même nous rappeler les phases de l'agression qui a mené à la mort de Quentin, et notamment nous préciser le statut des autres victimes, parce qu'il y a eu d'autres jeunes Français molestés ou lynchés. Est-ce que vous pouvez nous en parler
Donc Jean Bexon, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire, je rappelle, et vous avez particulièrement enquêté sur cette affaire.
Vous êtes le seul, enfin, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est ce qu'on appelle un scoop, c'est-à-dire vous avez vraiment mené une enquête de terrain journalistique, qui à ma connaissance est la seule sérieuse, avec des témoignages, plusieurs personnes, voilà, enfin... Un travail de journaliste, quoi.
Merci pour votre retour, en tout cas. Mais écoutez, pour ce qui est des personnes qui étaient sur ce carrefour, puisqu'après, il y a eu d'autres blessés, notamment chez les Némésis, mais qui étaient à quelques mètres plus loin. Mais si on reste focus sur ce lynchage, il y a eu 4 militants qui ont été lynchés en même temps que Quentin. Donc 4 militants lynchés qui ont reçu des coups, et puis il y a eu d'autres militants qui ont reçu aussi des coups, qui n'ont pas forcément été jetés au sol, mais qui ont reçu des coups. J'ai pu consulter la plainte d'un des 19 membres du service d'ordre informel qui atteste avoir reçu un coup de pied à la tête alors que lui était debout. Donc d'ailleurs il précise que l'agresseur devait être formé au sport de combat puisque c'est un coup de pied extrêmement technique. Vous connaissez si vous êtes licencié.
Oui, c'est des coups de boxe française, ça.
Appelle
la savate.
Je suis pas expert, mais en tout cas, c'est en totale contradiction, évidemment, avec l'esprit sportif. Quand vous êtes dans des clubs clubs d'arts martiaux, c'est vraiment, vous apprend l'inverse que de faire ça. Donc, on est clairement sur des gens qui n'ont rien à faire des règles. Et puis, alors, vous parliez des étapes. Justement, la première, à mon sens, c'est celle de la préméditation, de voir se manifester. Donc, ces 3 personnes qui viennent en repérage, qui ont un modus operandi qui est clairement identifiable comme tel et qui d'ailleurs se trouve sur les caméras de surveillance puisque la fameuse moto, donc la Yamaha MT, on la voit sur les caméras de surveillance et c'est ce qui a été dit à Europe 1 d'ailleurs. Les enquêteurs estiment que les différents passages que cette moto effectue sont suspects et sont du même ordre que d'autres agressions qui ont eu lieu. Donc ça c'est pour la première. La deuxième, donc ce sont ces militants qui voient fondre sur eux les antifascistes. Et à ce moment-là, vous en avez 2 qui sont pris en tenaille par les antifascistes. Il y en a 1 qui se retrouve mis à terre. Ce n'est pas Quentin, c'est son ami que j'ai appelé Louis parce que pour des raisons de sécurité, parce que depuis qu'il a porté plainte, il reçoit des appels masqués qu'il assimile à du harcèlement. Depuis qu'il a porté plainte, je précise, c'est-à-dire que son numéro personnel de téléphone a fuité à ce moment-là. En tout cas, Louis tombe à terre, il est frappé, il perd connaissance. À ce moment-là, et puis c'est là que vous avez cette bagarre entre les 2 groupes, une bagarre qui a été largement documentée par les réseaux Antifa, qui ont sorti à bon escient quelques captures d'écran d'une vidéo qui a été tournée par un antifasciste, vidéo dont on n'a plus de traces, mais on le voit tourner cette vidéo, mais il n'y a que quelques captures d'écran, et c'est là qu'on voit Quentin avec les bras en position de boxe, mais parce que
vous précisiez bien, donc en fait ce groupe-là se défend d'une attaque Damien des Chalamel. Antifa, donc ils font face en groupe, tandis que plusieurs de leurs camarades, derrière des voitures, sont en train de se faire lyncher.
Exactement.
Donc c'est l'inversion accusatoire totale.
Exactement.
En réalité, on accuse ces jeunes militants d'être des personnes violentes, agressives, alors qu'en réalité, non seulement elles se défendent, et par ailleurs, elles se défendent voyant que 2 ou 3 de leurs camarades sont en train de se faire molester, à terre.
Alors, en l'occurrence, un camarade qui a perdu connaissance à ce moment-là et qui se fait dépouiller ses
effets. Donc,
Philippe Charles, je vous donne la parole tout de suite et ensuite Jean-François Coulon des Arts.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Jean-François Coulon-Désart, Damien Chalamel et Philippe Charlaise, en présence de Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire, qui a particulièrement enquêté sur le meurtre terrible du jeune Quentin à Lyon. Philippe Charlaise, oui, vous avez une question.
Simplement une petite question du point de vue du timing. Si ces antifa étaient, donc ont commencé à faire du repérage et finalement étaient déjà là, ça veut dire qu'ils étaient au courant de l'action de Némésis et de la présence de... Ils ne sont pas tombés du ciel comme ça au dernier moment. La conférence de Rima, ça ne se passait, je crois que c'est 2 heures après ou quelque chose comme ça. Puisque là, on est à quelle heure là, on est quand Quentin se fait lâcher, il est 18h, 18h30, si je me souviens bien.
Le premier appel pour les secours, il se fait à 18h07, au D'accord, 14 rue Victor Lagrange, et du coup, le lynchage, on estime que c'est vers 18h.
Donc le lynchage, c'est vers 18h. Voilà. Et Rima Hassan, sa conférence, c'est à 20h, il me semble, à Sciences Po.
Alors, si
Sciences Po Lyon.
À vérifier, mais je crois 19h, si je me trompe pas.
19h, bon, peu importe, c'est après. Mais donc, ça veut dire que les filles de Némésis arrivent avec leur banderole, pour critiquer la présence de Rima Hassan. Elles ont demandé à un certain nombre de leurs amis de venir comme service de sécurité. Donc, est-ce qu'elle prévoyait des problèmes? Et surtout, comment est-ce que les antifa étaient finalement au courant de
les réseaux sociaux
de ça?
Alors, en fait, ce qui s'est passé concrètement
pour essayer de comprendre le temps. Je ne remets rien en cause, pour essayer de comprendre le temps.
Comment ils étaient au courant de ce...
Alors, en fait, le matin, Quentin reçoit des messages d'une de ses amies qui lui dit « On prévoit de faire une action à tel endroit ». Mais on a un peu peur de ce qui peut se passer puisque c'est la conférence de Rima Hassan. Quentin, à partir de ce moment, contacte un de ses amis. Il lui dit, et c'est un des derniers textos que cet ami reçoit, c'est on ne peut pas laisser des jeunes femmes sans défense. Puisque ce que craignait Quentin, cet ami et puis les autres personnes qui sont revenues, c'est que les antifa s'en prennent physiquement au Némésis. Donc avec ce petit groupe de 19 personnes, ce qui est... convenu, c'est que si jamais les jeunes femmes de Némésis sont prises à partie, à ce moment-là, les militants qui seraient positionnés à une vingtaine de mètres du lieu, mais pas devant directement, pour justement ne pas être là pour provoquer les antifascistes, ne pas être là pour les prendre à partie, au contraire, mais leur mission, ça serait d'évacuer les Némésis et de les mettre en sécurité. C'était ça leur mission de base, c'était pas d'en découdre avec les antifas. L'action se lancent, les Némésis déroulent leur banderole, et dans le même temps, vous avez ces personnes qui sont en repérage, qui ont remarqué qu'il y avait ce petit groupe, j'ai envie de dire, assez homogène d'un point de vue physique, et qui, au moment de l'agression des Némésis, c'est là que vous avez les antifascistes qui fondent sur Quentin et son groupe. Et d'ailleurs, une jeune femme de Némésis que j'avais eue en témoignage m'a dit qu'elle, alors qu'elle se faisait agresser par les étudiants, enfin les profils type étudiants qui allaient à la conférence, a vu ces militants antifascistes beaucoup plus aguerris partir et fondre sur Quentin. Et c'est là que j'ai envie d'aborder cette chose-là, c'est que, à mon sens, Quentin, il n'est pas mort inutilement. C'est-à-dire que les antifascistes les plus violents, les plus formés au combat, à ce moment-là, ils quittent l'action Némésis et ils fondent sur Quentin. Et c'est ça que, moi, j'ai envie de dire, on a épluché tous ces tweets. On a évidemment jugé chacun de ces tweets qui sont en effet condamnables.
Ouais, on parle d'un article de Mediapart.
De Mediapart, etc. Qui ne sont pas défendables. Mais quitte à juger les actes d'une personne,
de qui sont condamnables?
Les tweets que Mediapart attribue à Quentin de Roque. Mais en tout cas, moi je me dis, quitte à comme là, j'ai l'impression qu'on fait le procès de la victime. Faisons-le, écoutez.
Oui, c'est ça qui est très frappant.
On va peser tous les actes.
C'est qu'on fait aujourd'hui le procès
de la victime. Oui. Les tweets de Quentin
Les tweets de Quentin Durand sont si...
En tout cas, attribués par Mediapart.
À Quentin Durand sont difficilement défendables pour certains. En tout cas,
d'accord.
Mais en tout cas, si on épluche les actes de Quentin ici-bas, et si on en fait son procès, j'ai envie qu'on sache, j'ai envie que sa famille sache que je trouve que sa mort n'a pas été vaine, et au contraire, puisque de fait, les antifascistes les plus virulents qui auraient pu s'en prendre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de Némésis à ce moment-là, de fait, se sont pris. Et en ce sens, je dis qu'il a pris les coups que d'autres auraient dû prendre, ouais. Et en ce sens, je trouve que c'est respectable.
Finalement, il a protégé ses jeunes filles, c'est
exactement
ce que je voulais dire.
Est-ce que les agresseurs étaient équipés, c'est-à-dire un coup de poing américain, gant coq, quoi, tout ce qu'on retrouve quand on part dans ce style d'expédition?
Alors, un témoin oculaire m'a dit que la moitié était équipée de gants coquets. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un gant coquet, c'est un gant qui protège les phalanges et qui maximise le coup donné. Il y a un antifasciste qui aussi était avec une barre de fer. C'est LCI qui estime, en regardant les vidéos des témoins, qui estime qu'un des antifascistes avait un point américain. Il y a aussi des antifascistes qui étaient
avaient sans doute un point américain.
Avait sans doute. Je parle au conditionnel, pardon. Ouais. Je parle au conditionnel. LCI estime qu'il aurait pu avoir un point américain. Mais en tout cas, oui, il y a eu. Et puis il y a eu cette. Enfin, quand vous voyez des gens qui viennent
pour
repérer, on peut penser à une préméditation. Puis après, vous entendez des menaces de mort. Mmh. J'ai du mal à croire à, vous savez, une rixe qui a mal tourné, quoi. Je trouve que c'est... Mmh.
Non. On peut quand même, simplement, sans reprocher quoi que ce soit, on peut quand même dire que le groupe Némésis et puis ces jeunes qui sont, ils quand même une part d'inconscience là-dedans.
Si on ne peut pas dérouler une banderole devant Sciences Po, si c'est ça, inconscient... Philippe, mais c'est quand même bizarre, non?
Non, mais... Mmh. La question est qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, etc., elle prenait quand même énormément de risques, parce qu'elle s'était déjà fait agresser ailleurs, etc.
Philippe, comme dans ce cas, on s'interdit de faire du militantisme. Dans ce cas, on estime que le
c'est la fin du courage.
Oui, moi, je n'ai jamais fait de militantisme, mais je n'ai jamais manifesté de ma vie.
À 20 ans, j'espère qu'on a le courage.
Il n'est pas trop tard, Philippe.
Comment ?
Il n'est pas trop tard.
Une question pour Maître Chalamel. La préméditation, ça aggrave un dossier ?
Oui, c'est 30 ans.
Voilà.
C'est 30 ans de réclusion criminelle au lieu de 20 ans pour un meurtre. Voilà.
Meurtre
avec préméditation. Mais moi, je suis vraiment horrifié. Alors d'abord, moi, ces jeunes qui ont d'autant plus de courage que la plupart ne sont même pas formés au combat de rue.
Et en plus,
moi, j'admire et je suis heureux. Moi, je suis le père de deux jeunes filles d'une vingtaine d'années. Eh bien, moi, j'aurais pu être un jeune Quentin, c'est-à-dire non formé au combat, et alors je veux pas dire assez courageux, mais assez inconscient, effectivement, pour aller protéger des jeunes filles qui ont l'outrecuidance face à cette meute de déployer une pauvre banderole pour dire que les islamo gauchistes ne sont pas les bienvenus dans nos facs. Et moi, je trouve ça, mais j'espère qu'il y a encore des jeunes français.
Je crois qu'il faut quand même.
C'était à l'extérieur.
Je vais retirer ce que j'ai dit en disant qu'ils étaient inconscients. Je dirais que leur inconscience, c'est peut-être de ne pas avoir suffisamment connu la radicalité de leur adversaire.
J'ai une question quand même.
Est-ce que, Jean Bexon, est-ce que Quentin est mort, parce que ça a été dit beaucoup dans les milieux de gauche, est-ce qu'il est mort parce qu'il a voulu marcher longtemps après son tabassage?
C'est une excellente question que pose cet auditeur, parce que c'est une question à laquelle je me suis beaucoup penché.
Moi qui la pose, mais je vous écoute aussi.
je crois que c'est les questions des auditeurs.
Non,
qui
pas
arrivent.
Encore.
Non, mais écoutez, le procureur a déclaré que, de toute façon, les coups qu'a reçus Quentin, allaient le tuer. Donc, il aurait été pris en charge par les secours plus vite, ça n'aurait rien changé à sa tragique fin. Après, sur cette histoire de... il faut vraiment, pour ceux qui habitent à Lyon, qui connaissent la distance qu'a marché Quentin, quand vous êtes à Lyon, quand vous êtes un jeune de 20 ans, quand vous êtes un gaude de 20 ans, c'est une distance qui est relativement assez rapide et qui est plus rapide à faire à pied qu'à faire en bus. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il a fait ce choix-là, ou en transport en commun. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il avait pris les transports en commun, par exemple, pour rentrer chez lui, il repassait devant Sciences Po. Et donc, on peut comprendre qu'il n'ait pas eu ce réflexe d'aller devant Sciences Po. Et la troisième chose, je pense, c'est le plus important, c'est l'état dans lequel se trouve Quentin quand il prend la décision de rentrer chez lui à pied avec son ami. C'est l'état dans lequel lui se trouve et dans lequel son ami se trouve. Les deux viennent de subir un traumatisme crânien. Quentin a subi un traumatisme crânien
qui va entraîner sa mort.
Peu après. J'ai décompté, il a reçu 11 coups au niveau du haut du corps, et de fait, on peut estimer au niveau de la tête, dont 3 coups sur ces 11 coups ont été donnés par Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud de la France Insoumise. Et puis donc, en fait, à 18h07, il se relève au 14 rue Victor Lagrange, il est complètement sonné. Son ami qui avait été frappé et lynché une rue adjacente le retrouve. Après s'être éveillé, il n'a plus de souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a un blackout. Il retrouve Quentin. Son avocat me dira qu'il sera en incapacité de parler à ce moment-là. Et vous avez à ce moment-là un antifasciste qui filme la scène. Qui filme cette scène, cette vidéo qui est extrêmement voyeuriste, qui ensuite...
Non-assistance à personne en danger.
Tout à fait. Et il y a une personne qui dit aussi, si tu veux pas d'ennui avec la police, ne va pas à l'hôpital. Cette personne, on a dit, c'était un ami de Quentin. On a dit que c'était un proche du service d'ordre de Némésis. C'est entièrement faux. Cette personne, selon l'avocat de l'ami de Quentin qui se trouve à ce moment-là, cette personne, c'est une personne qui est hostile, selon l'avocat de l'ami de Quentin. Ou du moins, c'est un passant, mais qui, à ce moment-là, n'aide pas Quentin en disant ceci. Vous avez une témoin, et j'aimerais saluer d'ailleurs cette femme qui a appelé les secours, et qui, malgré le fait qu'on lui ait dissuadé d'appeler les secours, l'a fait et a maintenu. Mais l'opérateur de régulation médicale lui a dit que les secours n'étaient pas prêts d'envoyer une équipe tout de suite, et donc il fallait attendre, qu'il ne pouvait pas se téléporter. Donc à ce moment-là, on peut très bien imaginer Quentin qui a été sonné, son ami qui l'a été aussi, qui se disent « Je suis dans un endroit où j'ai été lynché. Il y a encore un antifasciste, quelqu'un qui est proche de canaux antifa, qui diffusera la vidéo, qui enverra la vidéo à des canaux antifascistes, qui est en train de me filmer. On a une personne qui est en train de me dire de ne pas aller à l'hôpital par peur de la police. Je comprends tout à fait qu'avec le peu de lucidité, le 2% de lucidité qui reste à Quentin, ils se disent « je vais rentrer chez moi ». Sachant qu'on a dit que pour rentrer chez lui, il a traversé un fleuve, il a traversé son affluent, etc. En fait, pour quelqu'un qui marche beaucoup dans le centre de ville de Lyon, vous remarquez que cette distance, c'est une distance que vous pouvez faire tous les jours. Vous êtes sur la presqu'île, vous rentrez chez vous, c'est 20 minutes de marche pour un jeune qui est sportif. Donc on comprend tout à fait que par réflexe de survie, il se soit dit avec son ami, on va rentrer chez moi. Il va rentrer chez lui. Mais il ne s'est pas engagé, il n'a pas essayé de fuir les services de secours. Au contraire, et puis d'ailleurs, quand il va perdre connaissance sur ce quai, d'autres amis vont le rejoindre, et ce sont d'autres amis qui vont appeler directement les secours et c'est là qu'il va être pris en charge à l'hôpital d'Edouard Herriot, et son ami, lui, sera pris en protocole commotion à l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc là, on a deux victimes qui n'ont pas refusé d'être pris en charge par les secours. C'est entièrement faux.
Quand il décide de rentrer chez lui,
Jean-François Coulon des Arts,
et qu'il va s'évanouir finalement, il se passe combien de temps? Il fait combien de mètres ou de centaines de mètres?
Alors, c'est à peu près 2 km.
Ah oui.
Mais en fait, je précise que c'est la même distance que si vous prenez les transports en commun. Et je dis ça, et s'ils avaient pris les transports en commun, ils auraient dû prendre un arrêt qui s'appelle l'arrêt Jean Massé, qui le faisait passer devant Sciences Po. Donc, je comprends tout à fait que rationnellement, dans le peu de lucidité que vous avez après avoir reçu une dizaine de coups dans le haut du corps, je comprends tout à fait que cette décision, elle a été prise, même si c'est pas...
Il marche 25 minutes.
Ils ont marché à peu près 3 quarts d'heure, si je me trompe pas.
3 quarts d'heure, oui.
Et puis en fait, en route, ils ont été à l'arrivée, parce qu'on a dit que les amis de Quentin l'avaient abandonné. Alors moi, je souhaite à ceux qui disent ça, de ne jamais subir ce qu'ont subi ces 19 militants ce jour-là. Sincèrement, je leur souhaite de jamais subir ça. C'est-à-dire, quand vous êtes lynché, quand vous êtes sonné, le seul réflexe que vous avez, c'est de
rentrer chez vous.
Une fois qu'ils se sont rendus compte que Quentin et son ami manquaient à l'appel, ils ont sillonné les rues de Lyon, ils ont essayé de l'appeler et ils l'ont rejoint. Donc, franchement, les personnes qui disent ça, je trouve que c'est vraiment de ne pas connaître. Et je leur souhaite sincèrement de jamais connaître ce qu'ont vécu les personnes sur place.
Damien Chalamet. Moi, j'aimerais pour conclure vraiment à nouveau vous féliciter parce que, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites œuvre de vérité. Et vraiment, ce qui est l'abjection la plus totale, et le dégoût qu'à titre personnel je ressens, c'est que on connaît la violence de ces personnes-là. On a l'illustration, la mort de Quentin. Et après, la violence, ça n'est pas suffisant, c'est le mensonge. Et ça, c'est vraiment répugnant, quoi. C'est-à-dire, c'est double couche, quoi. C'est-à-dire que ces personnes-là, non seulement et puis c'est toujours la violence, bien évidemment, à 3 contre 1 ou à 15 contre 1, bien évidemment. Et en plus, ils se permettent, après avoir commis leurs méfaits,
ou s'être associé à ceux de ces auteurs, de mentir à nouveau, c'est vraiment, et c'est le côté vraiment pervers de cette idéologie intrinsèquement perverse, à mon avis, de l'extrême gauche, du communisme ou du trotskisme, appelez-le comme vous voulez, dont ces personnes-là sont animées.
Et il y a un comble, encore une fois, de faire le procès aujourd'hui de la victime.
Ah mais c'est odieux.
Alors
c'est odieux.
Que les meurtriers ne sont pas, pour l'instant, punis. Quoi. Donc il y en a même un qui est peut-être pas un meurtrier, mais qui est quand même impliqué dans l'affaire, et notamment par l'intermédiaire de ses collaborateurs parlementaires, et qui est toujours planqué, qui touche son salaire de député tranquillement jusqu'à présent. Juste un mot d'un auditeur, le pauvre Quentin est mort à cause de cette provocatrice qui est Alice Cordier de Némésis. Donc bon, voilà, il y a toujours des gens qui considèrent que... Moi je comprends pas très bien ça, parce que si on peut pas dérouler une banderole devant Sciences Po, ce dont ne se privent pas beaucoup de groupes de gauche, et bon, finalement le droit de manifestation, voilà, ça fait partie du.
Si je peux répondre à cet auditeur, c'est Jacques-Élie Favreau et sa bande qui ont tué Quentin, et personne d'autre.
Mais oui.
C'est...
Voilà, exactement. Et ça, encore une fois, ça ne dédouane pas la responsabilité des éventuels tweets de Quentin, si jamais c'est un autre sujet. Et voilà.
Il n'est plus là pour répondre.
Il n'est pas là pour répondre. Quentin, il est au ciel.
C'est certain. Voilà, allez, on ferme cette page douloureuse, franchement, et on va ouvrir notre clin d'œil culture.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, notre clin d'œil culture, ce sont les livres, les films que nous avons vus cette semaine. On vous garde, hein, Jean Bexon, si vous avez vu quelque chose d'intéressant, une expo, un musée, réfléchissez. Je vous donne la parole tout à l'heure. Damien Chalamel, par exemple, puisque vous aviez la parole.
Oui,
qu'est-ce que vous recommandez pour ce week-end, cette fin de semaine?
Alors, je ne pourrais pas citer tout, parce que ce n'est pas un livre qui est à mettre entre toutes les mains. Ah. Et je dirais qu'il est réservé aux Houellebecquiens de stricte observance.
Oula,
donc c'est le dernier recueil de poésie. Alors il y a, effectivement une poésie absolument un peu répugnante, mais bon, passons, parce que c'est un recueil. Donc,
c'est du Houellebecq, on sait à quoi s'attendre.
Si vous faites abstraction de celle-là, le reste est plus que lisible. Alors, vous savez, c'est Michel Houellebecq, c'est l'auteur du désenchantement, hein, de la déréliction de l'homme blanc. Alors déjà, le titre, c'est « Combat toujours perdant ». C'est Flammarion. Combat toujours perdant. Donc c'est un recueil de poésie à la fois en vers et en prose. En vers, ça mérite quand même d'être noté,
c'est
parce
rare.
Que c'est relativement rare.
Ouais.
Alors c'est pas du grand Houellebecq. Je dirais que c'est plutôt dans la ligne de son dernier que j'avais commenté. C'était quelques mois dans ma vie. C'est quelques tranches de vie, mais sous une forme poétique. Alors je dirais que non seulement on retrouve donc ce conteur de la déréliction de l'homme blanc, mais il ne va pas se faire que des amis. Je vais vous citer juste le titre de deux poèmes dont je vous laisse imaginer le contenu. Il y en a un qui s'appelle, et que je vous conseille évidemment de lire, L'ancienne voie romaine.
Suivrai le conseil.
L'ancienne voie romaine, qui est remarquable. Ouais. Et l'autre, c'est presque du genre Aspail, En attendant l'envahisseur. Et je finis en page 57, c'est-à-dire vraiment la fin de l'ouvrage, puisqu'on est en période de carême. Il y a un passage... un développement sur le christianisme et sur la résurrection qui est bouleversant, parce que bon, Michel Houellebecq n'est pas vraiment spécialement une grenouille de bénitier, ça n'a échappé à personne, avec ses mots, avec son style, donc rien que pour ça, il faut lire.
Ça vaut le coup.
Voilà, absolument.
Vous nous rappelez le titre et l'éditeur?
Alors, le titre, c'est « Combat toujours perdant ».
Ouais. C'est très Houellebecquien.
Et c'est tout à fait Houellebecquien. Et de mémoire, il est toujours chez Flammarion.
Chez Flammarion.
Une question pour Damien, vous avez écouté son
Jean-François
disque.
Colin-Desart.
Non.
Non, oui, parce qu'il vient de sortir un disque.
Ah d'accord,
oui,
mais
il vient de sortir... Ah bah alors, pour la semaine prochaine, ça sera votre travail.
Pas, voilà. Parce que...
Il chante lui-même.
Sais qu'il a déjà...
De fait, avec, je ne sais plus qui l'accompagne.
Avec un musicien professionnel qui a fait la musique, etc. Il a écrit les paroles et il chante. Il chante ou il slam ou je sais pas, ou il parle.
Scande.
Voilà, bon, ben voilà, on aura le disque de Houellebecq la semaine prochaine. Jean-François Coulon-Desart.
Oh, c'est assez simple. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, le film de Godard, de Jean-Luc Godard, vous savez, le plus le plus chinois des réalisateurs suisses.
Ouais.
C'est un film qui a été...
C'est pas tout neuf, ça.
Si, c'est complètement neuf. C'était à Cannes il y a l'année dernière.
Ouais.
Et c'était au cinéma. Et ça vient d'arriver sur les plateformes de télévision de chez vous. Vous pouvez le commander, etc. C'est un film qui a été tourné sur la fabrication du film Nouvelle Vague. Avec, avec des jeunes acteurs, c'est en noir et blanc, et c'est formidable. C'est une sorte de making-of du film, et de la période, il y a tout le monde, Rivette, Chabrol, etc. Des jeunes... C'est absolument formidable, il faut voir ça, mais vraiment d'urgence.
Ouais. Donc, vous l'avez vu donc
Non, je ne l'ai pas vu, si je vous en parle, c'est que je l'ai vu.
C'est
complètement français.
Que ça va paraître...
Non, vous les avez sur vos plateformes de télévision, parce que c'est déjà sorti au cinéma, c'était à Cannes l'été dernier, au printemps dernier. Et c'est vraiment un film génial avec, Nouvelle Vague, les héros, c'était Jean Seberg. La jeune actrice qui joue le rôle de Jean Seberg, c'est une pratiquement copie conforme. Mais Jean Seberg et Belmondo, quoi, vous vous souvenez.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Un film vraiment formidable.
Merveilleux. Philippe Charlezin.
Je passe mon tour.
Il passe son tour. Jean Bexon, vous avez pensé à quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu de sympa?
Je vais voir quelque chose de sympa, puisque je vais, ce week-end, je vais à l'avant-première d'un ami qui est scénariste et réalisateur qui s'appelle Bernard Delagarde. Il faut retenir le nom, parce que je pense qu'il va percer dans les prochaines années.
Ouais.
Et donc, il a réalisé un film qui s'appelle L'ombre des champs. Mmh. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir ce week-end.
Vous reviendrez nous en parler.
Évidemment.
Voilà. Et moi, je voulais vous dire deux petits mots de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue d'Alexandre Devecchio. C'est chez Fayard. Alors vous savez, on le connaît, hein, Alexandre Devecchio, c'est un journaliste très brillant, rédacteur en chef des pages débat idées du Figaro et Figaro Magazine. Il a écrit Les nouveaux enfants du siècle. Sur les djihadistes, les identitaires et les réacs, enquête sur une génération fracturée, c'était au CERF. Il a écrit Recomposition, le nouveau monde populiste, toujours au CERF. Chacun de ses livres a d'ailleurs fait un peu d'ébullition, un peu de bouillie. Là, en l'occurrence, c'est un essai sociologique sur la mutation de la banlieue française qui est éclairée de son propre parcours d'enfant des quartiers, comme on dit. Il raconte par exemple que le 27 octobre 2005, Jean-Claude Hirvoas est lynché mortellement à quelques pas de chez lui, à Épinay-sur-Seine. C'était le même jour que la mort accidentelle de Zied Ebouna à Clichy-sous-Bois, dans un transformateur électrique. Alors tout le monde se souvient de la mort de Zied Ebouna, mais personne ne se souvient de Jean-Claude Hirvoas. Il n'en tire ni de Alain, ni de Jean-Jacques, ni de plusieurs autres morts qui ont suivi. Alors il dit que c'était très bien de s'affliger de la mort de Zied Ebouna, mais ça contredisait le récit d'une révolte contre la ségrégation sociale. Et donc il en tire un tas de conséquences. C'est un des multiples exemples éclairés de son expérience et de sa vie. Très intéressant livre et très personnel. Voilà.
Une question peut-être. Est-ce qu'il parle de Bondi Blog, parce que je sais que
bien sûr, il parle beaucoup du Bondi Blog parce qu'il y a été. C'est là qu'il a décollé et donc il en parle très bien avec et il raconte notamment comment les anciens du Bondi Blog ont pu se diviser, devenir indigénistes très durs ou opportunistes de gauche ou alors de droite comme lui. Donne les raisons. C'est très intéressant.
Et lui-même venait de Lesbos, c'est ça
Épinay-sur-Seine.
Épinay-sur-Seine, pardon.
D'Épinay-sur-Seine. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous dans ce studio. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces 2 heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile, vous le savez, qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve donc le vendredi 20 mars, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.